pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Et grille par grille, et bâche par bâche, on démontra toutes les bassines.
Le pouvoir public ne veut pas qu'on s'exprime. Ils ne veulent pas qu'il y ait un contre-pouvoir citoyen, des syndicats, des associations, des collectifs qui disent « on est majoritaire, on n'est pas d'accord ». Ça, ils ne l'acceptent pas. Donc, eh ben, ils font la répression. Ils nous convoquent devant la justice, les violences policières, qui est un très bon moyen de répression. Nous ne céderons pas. Pas d'un pouce. Nos bassaranes.
Hervé Auguin, l'un des porte-parole du syndicat Sud Solidaire, convoqué le 3 décembre 2025 au tribunal de Poitiers, avec trois autres porte-parole, CGT, Soulèvement de la Terre et Bassine Non Merci, tous les quatre accusés d'organisation de la manifestation anti-bassine interdite de Sainte-Soline 1 de 2022. Manif illégale contre une bassine déclarée illégale par la justice fin 2024. On a au précédent épisode commencé à vous raconter le procès de ces quatre militants anti-bassines qui ne sont que porte-parole et non pas dirigeants de leurs organisations. Et aujourd'hui, vous allez assister à cette audience grâce à la magie du théâtre avec ces remarquables comédiennes qui ont adapté les débats judiciaires pour vous. Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et lavoixoff.com et pour votre radio libre préférée. C'est l'heure de la retransmission du procès auquel on assiste.
C'est l'heure de la retransmission du procès auquel on assiste. Résistants ou bien terroristes, nous nous poserons la question.
Ah bon ?
Question sur le droit de se taire et le droit de manifester, s'approprier l'eau et la terre. Aujourd'hui n'est pas le sujet,
sans déconner.
Soyons sérieux, soyons concis. Ce que l'on dit et l'on transmet. Soyons précis, levons les doutes. Car c'est le peuple qui écoute.
Julien Leguet, votre déclaration.
Mesdames, messieurs les juges, je me présente à vous suite au jugement rendu en première instance à Niort en janvier 2024 et dont nous avons fait appel avec mes camarades. Pour ma part, il s'agit du début d'un véritable marathon judiciaire, parce que si j'ai bien compris, chacun des quatre jugements prononcés à mon encontre en première instance fera l'objet d'une audience spécifique devant cette même cour d'appel de Poitiers. Je tiens à vous signaler que je vis la multiplication de ces échéances à venir comme une peine supplémentaire venant s'ajouter aux interdictions de territoire et de porter les armes déjà en application. Je dois, pour chacune de ces audiences, mobiliser des témoins, des avocats, avocates, et me retrouve de fait sous une pression, y compris médiatique, qui affecte d'ores et déjà mon quotidien. Néanmoins, je me présente devant vous, bien déterminée à obtenir la relaxe du précédent jugement. Tout d'abord, je tiens à revenir sur mon engagement à temps plein dans cette lutte contre les méga-bassines et depuis bientôt 10 ans. Je suis engagée contre les méga-bassines parce qu'elles contribuent à la destruction d'un territoire qui m'est cher, qui m'est vital, le Marais Poitevin. Je me bats contre les méga-bassines parce qu'elles contribuent au maintien d'une certaine agriculture dont les effets sur cette zone humide, unique au monde, sont la disparition de nombreuses espèces à laquelle j'ai dû assister impuissant depuis plus de 40 ans. Cette culture intensive de ce maïs si gourmand en eau et largement encouragée par les pouvoirs publics à partir des années 70 a enfermé notre agriculture dans une véritable voie sans issue. Plus d'eau pour plus d'irrigation, pour répondre à un climat de plus en plus chaud. Les rivières disparaissent, les marais sont ravagés. Mon métier, ma passion a été pendant plus de 30 ans de faire découvrir le Marais Poitevin, son histoire, son fonctionnement, sa faune, sa flore en tant que guide batelier. Aujourd'hui, j'ai été contraint de cesser cette activité. L'état du marais est tel que ce qui autrefois me donnait joie, épanouissement et émerveillement me procure aujourd'hui mal-être, tristesse et abattement. Tout y crève. Je suis un enfant du mignon. J'y ai pêché, j'y ai nagé, j'y ai travaillé. Mes filles ont appris à y nager. Et je ne peux que constater que la construction des premières bassines, Je parle de celle de Lazare des Roches du secteur de la grève, la laine, Crame-Chaban, aujourd'hui illégale, n'a fait qu'accentuer les dysfonctionnements, et notamment hydrauliques, dont souffre le Marais. Je peux vous assurer que, comme tous mes camarades, nous avons tout essayé, tout mis en œuvre pour stopper ces aménagements géants et aberrants, ces véritables maladaptations, comme le qualifie l'écrasante majorité des scientifiques questionnés sur le sujet, et à commencer par tous les moyens légaux. Nous avons fait la promotion de l'enquête publique en mars 2017 et facilité l'expression de plus de 800 citoyens citoyennes du territoire. 80% d'entre elles ont alors fait part de leur opposition ferme à ces projets de stockage d'eau à vocation agricole sur des bases juridiques souvent très argumentées. Nous avons organisé des centaines de réunions publiques, soirées débats, projections en tout genre mettant la pédagogie et l'information des citoyens et citoyennes au centre de notre lutte. Nous avons organisé des dizaines de manifestations toujours festives, familiales, rassemblé des dizaines de milliers de personnes autour de cette lutte pour l'eau bien commun. Nous avons déclaré toutes ces manifestations. Nous avons soutenu tous les recours légaux et avec les associations de protection de la nature, obtenu de nombreuses victoires qui, à minima, auront ralenti les ardeurs des pelleteuses et du rouleau compresseur institutionnel. À tel point que les 6 bassines de Lazare des Roches, du Mignon et celles si emblématiques de Sainte-Soline sont à ce jour illégales et qu'à ce titre, les chantiers n'auraient jamais dû être réalisés. Tout ça pour ça. Mettez-vous à notre place, mesdames, messieurs les juges. Quand la terre où vos enfants ont grandi est à ce point atteinte, quand vous voyez les autorités et les institutions censées être les garantes de l'intérêt général et de l'application de la loi, bafouer ces mêmes lois et traiter avec mépris et violence un large mouvement citoyen agissant simplement pour l'eau, commun vital pour toutes les formes de vie sur cette même terre, la planète bleue. Quand en septembre 2022, et sur pression d'un Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, en représentation au congrès de la FNSEA à Niort, le chantier démarrait à Mosée, alors que des recours restaient encore à juger, que nous restait-il comme moyen de stopper ce désastre écologique ? Face à des autorités qui, à partir de ce mois de septembre, vont systématiquement entraver nos droits fondamentaux à manifester, à nous exprimer, que nous reste-t-il ? Dire non à cette atteinte, à notre condition de citoyens citoyennes, continuer à nous réunir, nous rassembler, quitte à risquer les amendes applicables en cas de participation à une manifestation interdite, à nous auto-organiser collectivement pour défendre nos droits fondamentaux. Alors, mesdames et messieurs les juges, je ne vais pas me dérober. Oui, j'étais présent les 2 octobre et 29 et 30 octobre 2022. Oui, j'assume avoir participé à ces rassemblements revendicatifs et politiques qui, à quelques jours de leur tenue, auront été déclarés illégaux parce que je qualifie de décision arbitraire et inadaptée des autorités et des préfets en poste. Je récuse fermement avoir joué un rôle particulier et prépondérant dans ces mobilisations dès lors que celles-ci ont été interdites. Et je pense que si je me retrouve aujourd'hui devant vous, c'est que le juge M. Durafour et ses assesseurs auront confondu mon rôle de porte-parole et celui de responsable légal, de chef, de décideur, bref, d'organisateur. Ce n'est pas notre fonctionnement, ce n'est pas notre culture. Et quand nous décidons collectivement de rentrer en désobéissance civile, ce sont bien des individus qui s'auto-organisent et non plus des organisations qui risqueraient des représailles en tout genre si leur participation venait à pouvoir être démontrée. Je me sens pleinement en droit de faire valoir l'état de nécessité pour justifier l'illégalité dans laquelle nous aurons enfermé de fait des décisions éminemment politiques, contraires aux principes de liberté d'expression et de manifestation. Je le dis et le redis ici. Le chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline n'aurait jamais dû démarrer. Nous n'aurions jamais dû avoir à nous mettre en danger et à nous exposer à de telles représailles judiciaires pour avoir résisté à ce projet. Concernant l'interdiction de port d'armes, cette peine ne m'attend en rien. Je suis et resterai objecteur de conscience. Et à ce titre, j'ai toujours refusé de porter et utiliser quelque arme que ce soit. De la même manière, je me suis toujours refusé de commettre quelque violence physique contre quiconque, y compris les forces de l'ordre. Lors de ces manifestations, ma position de porte-parole m'oblige à faire face à des agents de l'État lourdement armés. Et j'ai déjà eu à subir et à assister à de trop nombreuses reprises à la violence institutionnelle dont l'État et ses gendarmes pouvaient se rendre coupables. Et nous avons tous et toutes ici en tête les images révélées le mois dernier par Mediapart et Libération. Elles donnent à voir les images tournées par les caméras piétons des forces de l'ordre où on peut voir cela pratiquer sur ordre de nombreux tirs tendus. et jubilé des blessures qu'ils nous auront infligées en proférant des insultes et des menaces de mort explicites. Je tiens à redire ici que, comme plus de 40 camarades manifestantes ce jour-là du 29 octobre, j'ai été blessée par un coup de matraque porté au crâne par un des gardes mobiles, ce qui a nécessité la pose de 8 points de suture. N'est-ce pas cher payé pour avoir simplement utilisé la liberté d'exprimer mes opinions, sans jamais avoir témoigné de la moindre agressivité ou la moindre menace envers ces mêmes forces de l'ordre? Mesdames, messieurs les juges, j'ai déjà payé et continue de payer bien cher mon investissement politique contre les méga-bassines et le système agro-industriel pour lequel elles sont construites. Je ne veux pas faire mon caliméro, mais je dois faire état de certaines réalités concernant les conséquences de mon engagement. J'ai dû me séparer de mes filles et de leur mère pour ne plus les exposer aux menaces et intimidations dont mon foyer et ma personne faisaient l'objet. J'ai dû quitter le collectif de travail que j'avais contribué à fonder pour que celui-ci n'ait pas à subir les pressions et représailles liées à mon investissement. Le domicile de mon père a fait l'objet d'une surveillance à l'aide de matériel haute technologie. Une balise GPS a été trouvée sous son véhicule. Mon neveu a été agressé à son domicile par deux individus qui, en le tabassant, l'insultaient d'antibassine. Mesdames et messieurs, si j'avais un regret à formuler, c'est de ne pas avoir cru qu'après cette première opération de maintien de l'ordre déjà extrêmement violente, l'État, le gouvernement et la chaîne de commandement de la gendarmerie pourraient aller encore plus loin dans l'utilisation d'armes classées comme armes de guerre par l'ONU et l'utiliser contre des citoyens qui venaient simplement visiter une bassine de chantier. Tout ça pour un trou de terre, un trou vide. Mesdames et messieurs, vous comprenez pour toutes ces raisons que je demande la relaxe pour moi ainsi que pour mes camarades.
Merci monsieur Julien Leguet. La parole est à monsieur Nicolas Garrigue.
J'ai eu ces 5 dernières années la joie de participer au mouvement anti-bassine, de contribuer à bâtir ces mobilisations et de me lier ainsi aux terres et marais des Deux-Sèvres et à leurs habitants. Je suis bannie depuis 2 ans des Deux-Sèvres. J'ai reçu l'interdiction d'y retrouver les lieux et les amis auxquels je tiens tant par une décision de justice, de tribunal, de Niort. Cette décision de justice qui me vaut aussi 6 mois de prison avec sursis, je la conteste absolument. Elle visait, tout comme une série d'autres décisions du tribunal de Niort infligées à des camarades, à saborder un grand mouvement populaire, paysan et environnemental. Les événements ont depuis largement prouvé à quel point cette décision était aussi injuste qu'infondée. Puisque j'ai été condamnée individuellement avec quelques autres porte-parole de syndicats et associations pour l'organisation de 2 mobilisations contre la construction de la bassine de Sainte-Soline le 29 octobre puis le 31 mars, je voudrais d'abord rappeler à quel point les multiples manifestations contre les méga-bassines ont été de grandes œuvres collectives. Les centaines, puis les milliers de personnes qui ont participé à organiser ces manifestations étaient animées par un sens profond de l'utilité de leur tâche. Ce qu'elles ont participé à produire dans les Deux-Sèvres a redonné à beaucoup le goût de manifester et l'espoir que cela puisse réellement changer les choses. C'est important de commencer par cette notion d'espoir, parce que cet espoir a été un temps profondément détérioré par les blessures et mutilations sur des centaines de manifestants, manifestantes, qu'a choisi délibérément de causer le gouvernement de l'époque pour semer la terreur. Les instructions données par les gradés de la gendarmerie agissant sous ses ordres sont à ce niveau brutalement explicites dans les quelques extraits vidéo qu'ont pu révéler Mediapart et Libération récemment. Dès la manifestation du 29 octobre qui nous préoccupe aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait préparé l'opinion publique au fait de martyriser l'espoir collectif suscité par ces manifestations en nous traitant d'éco-terroristes. Il a ensuite ordonné aux forces de l'ordre de nous traiter physiquement à l'aune de cette vindicte, puis à des procureurs de poursuivre des manifestants, des manifestantes et de désigner des organisateurs. C'est important de rappeler ici l'espoir qui nous animait et qui nous anime encore parce que ce ministre aujourd'hui en exercice à la justice voulait faire en sorte que les habitants de ce pays aient désormais peur de manifester. Qui plus est de participer à organiser des manifestations, peur des grenades, des contrôles, des amendes, des peines, des incarcérations. C'est important de repartir de l'espoir parce que l'on nous a dit que dans le tribunal de Niort, les manifestations anti-bassines, démonstrations de dignité collective, sommes de solidarité et d'ingéniosité devraient être considérées comme des délits. Tout cela alors que ces manifestations palliaient précisément les manquements de l'État et de la justice. Ces manifestations ont offert des réponses concrètes aux graves défaillances des préfectures qui avaient autorisé la construction d'infrastructures qui allaient contre l'intérêt des habitants des territoires impactés. Ces manifestations ont trouvé des solutions sur le terrain pour parer au contretemps des tribunaux qui reconnaissent régulièrement l'illégalité des bassines, leur impact délétère sur les milieux de vie, mais souvent une fois qu'il semble alors trop tard pour revenir en arrière. Nous ne voulions plus être mis face à la politique du fait accompli. Aujourd'hui, la bassine de Sainte-Soline a fini par être jugée illégale. Ce jugement a fini par donner raison sur le plan juridique à l'ensemble des personnes qui ont manifesté le 29 octobre, puis le 31 mars contre l'implantation de cet édifice. Mais il est survenu une fois que la bassine était déjà construite. Et l'exemple récent du jugement sur l'illégalité du chantier de l'A69 montre à quel point ce gouvernement et les bénéficiaires de tels projets d'infrastructure sont aujourd'hui prêts à tout pour piétiner les décisions des juges une fois le forfait accompli.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez recentrer votre propos, s'il vous plaît ?
Je vais continuer, c'est justement le sujet. Car c'est quitte à faire passer une loi de validation qui bafoue ostensiblement votre autorité. Dans ce tribunal, le parquet va sans doute tenter une nouvelle fois de mettre en cause deux soi-disant organisateurs. Mais ce qui est en réalité demeure insupportable aux autorités, c'est que des dizaines de milliers de personnes de leur propre chef aient pris le risque à l'époque de braver une interdiction de manifestation parce que la cause qu'elles défendaient leur apparaissait juste autant qu'absolument urgente. La défense de l'eau face aux maladaptations du modèle agro-industriel répondait et répond toujours à un état de nécessité. Il est aussi ridicule qu'archaïque d'imaginer que sur un enjeu aussi vital que l'eau, ces œuvres collectives puissent cesser parce que l'on enfermerait ou bannirait aujourd'hui quelques personnes désignées comme organisateurs. Nos mouvements ne sont pas le reflet d'une quelconque structuration verticale et militaire. Ils ne se construisent pas en miroir de ceux qui nous ont lancé leurs grenades et de leurs colonels. Leur grand kiff n'est pas d'éborgner et de blesser. Dont acte, malgré la répression implacable dont il a fait l'objet et la suite de condamnations systématiques distribuées à la chaîne dans le tribunal de Niort, le mouvement anti-bassine n'a pas cessé. Il est en bonne voie d'obtenir gain de cause et même le préfet de la Vienne a récemment annoncé renoncer à la centaine de projets de méga-bassines prévus sur le département. À défaut d'admettre les dommages environnementaux et sociétaux de ces projets, il admet que leur acceptation sociale fait défaut. C'est un pas. Cela n'aurait jamais été possible sans ces manifestations. Au vu du dossier de l'enquête censé appuyer notre condamnation, désigner des organisateurs et les mettre sous le feu des projecteurs après les manifestations de Sainte-Soline a surtout été un moyen pour les autorités de tenter d'escamoter ce qu'elles avaient elles-mêmes organisé. Le dispositif d'enquête visait à les dédouaner d'avoir délibérément organisé les blessures et mutilations de centaines de manifestants et manifestantes pour défendre un cratère. Il s'agissait d'imposer dans un tribunal un récit sur l'organisation de cette manifestation qui déresponsabilise le gouvernement de ses choix brutaux et délibéré de maintien de l'ordre, de l'entrave de l'accès aux blessés, des 2000 grenades jetées en moins de 2 heures sur la foule. On s'est empressé de passer en justice des responsables syndicaux et associatifs et on a tout fait depuis et jusqu'à ce jour pour protéger les organisateurs du dispositif de maintien de l'ordre et les gendarmes qui ont tiré sur Serge, Mika et les autres. Je demande toujours, depuis 2 ans, s'il y a aussi une justice et des tribunaux pour ceux qui martyrisent leur population. Je me demande aujourd'hui si cette justice et ces tribunaux sauront prendre le recul qui s'impose sur le sens de la machinerie répressive qui s'est mise en place à Sainte-Soline le 29 octobre. Je récuse ici le fait que des porte-paroles puissent être jugées et condamnées pour la manifestation du 31 octobre 2022 à Sainte-Soline. Mais j'assume pleinement le fait d'avoir participé, comme des milliers d'autres, à cette mobilisation. On se souviendra probablement des 31 octobre et 25 mars derniers comme de moments déclencheurs dans le tournant qui se doit d'être pris pour protéger et partager l'eau. Les générations à venir, la nôtre aussi, devront vivre dans un monde plus ou moins habitable, mutilé par le fait d'avoir agi à temps ou pas. Merci.
Merci, monsieur Garrigue. Monsieur Baudin.
Bonjour. J'ai fait appel de mes condamnations du 17 janvier 2024 au tribunal de Niort, car je suis mécontent de la manière dont a été traité le procès. En première instance, le jugement précise que l'urgence climatique ne serait pas une urgence à prendre en compte pour l'état de nécessité, ce qui me paraît inquiétant. Pour ma part, j'agis au sein de Bassines Non Merci comme porte-parole de mon organisation syndicale, la CGT de Sèvres, au vu des décisions de congrès qui m'ont été confiées. Pour autant, je n'ai pas organisé de manifestation à Sainte-Soline. La CGT organise près de 2000 manifestations en France chaque année. Pour l'organisation de ces manifestations, jamais aucun de mes camarades n'a été poursuivi. Et pourtant, il existe des manifestations interdites chaque année. Le droit de manifester est un droit fondamental d'expression. Je ne comprends pas pourquoi l'État français interdit des manifestations. En tout état de cause, jamais auparavant la CGT n'a été poursuivie pour organisation d'une manifestation interdite. Jamais depuis l'occupation nazie. Toute condamnation serait un tournant historique. Sur demande de mon organisation syndicale, j'ai produit une déclaration de manifestation pour la manifestation d'octobre 2022 à Sainte-Soline. Cette manifestation a été interdite après la déclaration. Mais cette déclaration de manifestation et ma prise de parole sur un terrain privé ne prouvent pas que je suis organisateur. En plus, l'interdiction de cet événement ne nous a pas donné les moyens de l'organiser. Nous n'avons pas pu amener ni notre fourgon, ni sonorisation, ni déployer notre équipe d'animation des luttes et sécurité. Et être condamné pour organisation d'une manifestation alors que tous les moyens de l'organiser ont été empêchés par arrêté préfectoral, je trouve que c'est un con. Ni mon organisation syndicale CGT, ni moi, ni les autres porte-parole n'ont organisé de manifestation le 29 octobre 2022 à Sainte-Soline. C'est pourquoi je demande à être relaxé par cette cour d'appel.
Monsieur Auguin.
J'ai fait appel de ma condamnation car je conteste le principe du jugement. Je n'ai pas organisé la manifestation interdite du 29 octobre 2022. Je milite dans le syndicat Sud Solidaire depuis plus de 15 ans. Avec des militants et militantes, nous portons des luttes de transformation sociale et écologique contre le capitalisme pour plus de justice sociale et environnementale. Je suis un des représentants de Solidaires de Sèvres, une voix parmi d'autres qui défend l'intérêt général. Je représente, nous représentons les travailleuses et travailleurs, les étudiants et les étudiantes, des retraités. Nous ne sommes pas des terroristes, ni des délinquants. Nous sommes des individus qui portons un autre projet de vivre ensemble solidaire et respectueux du vivant, et qui voulons l'exprimer. La liberté d'expression et donc de manifestation est un outil syndical fondamental et central, essentiel, majeur, incontournable. Pour alerter, pour informer, pour comprendre, pour décider, pour s'opposer, pour proposer, collectivement. Nous interdire de manifester, c'est nous nier en tant qu'expression collective et légitime. Un syndicat est un contre-pouvoir nécessaire à la vitalité démocratique, comme d'autres acteurs de la société civile, associations, collectifs, indépendamment des pouvoirs politiques. Sans liberté de manifestation, pas de démocratie. Ainsi, nous avoir interdit de manifester à Sainte-Soline en octobre 2022 devant un cratère de terre, future méga-bassine, symbole de l'agro-industrie écocidaire, financé à hauteur de 70% par de l'argent public, l'argent du peuple, m'interroge, nous interroge. De surcroît, quand il s'agit d'un projet décidé selon des modalités peu transparentes, avec des arguments mensongers, un projet qui exclut la vie des habitants et les habitantes du territoire et qui ne profite qu'à une minorité de paysans. D'ailleurs, la méga-bassine de Sainte-Soline a depuis été jugée illégale par justice, comme bien d'autres dans la région. Notre manifestation était, pour toutes ces raisons, légitime. Manifester est et doit rester une liberté fondamentale. Sans liberté de manifester, un syndicat perd sa raison d'être. Cette liberté n'a pas été respectée en octobre 2022 à Sainte-Soline. Je suis innocent, nous sommes tous innocents. Je demande donc la relaxe pour moi et mes camarades.
Bien, approchez-vous. Je voudrais vous poser quelques questions. Pour le 2 octobre, comment cette manifestation est annoncée ?
Je vais vous décevoir, j'espère ne pas vous vexer. Il y a les éléments au dossier, je vais garder le silence.
Ah bon ? Je vais devoir parler à votre place, c'est dommage. Il y a ce post Facebook de la Grillade Party qui donc annonce la manif du 29. T'es d'accord ?
Oui, en tant que porte-parole.
Donc, vous vous êtes rendu sur place, On a des interviews, des photos avec des banderoles, des gilets de sauvetage pour se protéger.
Toujours un gilet en cas de montée des eaux. Mais oui, en tant que porte-parole, j'ai relayé les messages du collectif.
Vous avez fait une intrusion, refoulé, et ensuite le pique-nique et la randonnée. Vous avez fait une conférence de presse, porté le message de Bastille non merci. Ensuite, la manifestation du 29 qui a été annoncée par presse. Je rappelle que celle du 2 octobre n'a pas été déclarée, c'est pour ça que vous êtes là. Celle du 29 est interdite, mais avait été déclarée. Donc tout le monde sait que c'est interdit, donc vous représentez Bastille non merci. Mais bon, comment vous qualifiez c'est un collectif, c'est un mouvement un peu insaisissable, c'est important de qualifier cette organisation nationale, internationale. Bon, j'entends bien que je vous fais rentrer dans des cases qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez aucune structure qui puisse désigner un président, un organisateur, des représentants. Monsieur Le Guay, restez avec moi pendant l'instruction. Malgré les obstacles, les organisateurs sont sereins et le nom des contacts sont donnés, dont Benoît Feuillu.
Je ne nie pas ma participation, mais je préciserai pas si je suis Benoît Feuillu.
Bon. Il y a des infos, des reportages, on voit votre tête et c'est marqué Benoît Feuillu. Donc bon, c'est bien vous qui êtes donné en contact d'organisation. Il y a des drapeaux CGT, des stands solidaires sous le chapiteau. La manifestation va prendre 3 circuits depuis le terrain privé, donc 3 circuits organisés. Je rappelle que le problème, c'est que vous ayez organisé une manifestation interdite. Vous êtes bien ceux qui ont déclaré la manifestation ?
Pas de déclaration.
Pourquoi il y a tout de l'organisation CGT alors que c'est pas organisé par la CGT ?
Non mais oui, parce que chacun peut amener des drapeaux...
Mais vous nous avez dit, pas de buvette, etc., pas de CGT ?
C'est clair pourtant, non ?
J'essaie de comprendre, donc c'est pas clair. Donc pour résumer, vous déposez la déclaration, ça a été interdit, donc la CGT se désolidarise, mais le jour de la manif, vous allez participer au débat, à la marche.
Tout a été dit, je n'ai rien à déclarer de plus.
Monsieur Baudin ?
Pas de commentaire.
Bon, pas de commentaires sur pas grand-chose. Bon, il y a des personnes en noir, avec des cagoules, des black blocs, qui peuvent faire craindre des débordements. Et ils sont presque 300. Les gendarmes, monsieur Julien Le Guay vous demande comment vous allez gérer ces personnes. Vous répondez que vous n'avez pas la possibilité de les gérer, et vous dites que si les policiers s'en vont, il n'y aura pas de problème.
Je ne fais pas de lien entre porteur de masque et faiseur de violence.
Bien joué, Jules. Ouais,
il faut préciser qu'il y a une des juges qui est malade et qui porte un masque noir.
Avec la présentation qui est faite de la manifestation, on est sur quelque chose de festif, ouvert aux familles. Ça fait partie des choses qui m'ont étonnée sur le grand écart entre la proposition de concert, barbecue et à l'arrivée, il y a des gens qui peuvent poser des problèmes et rien n'est mis en place. Est-ce que les gens sont au courant que la manifestation est interdite ?
C'est relayé largement dans les médias. Hein.
Dans le communiqué, c'est pas clair. Monsieur Le Guay, vous avez 3 enfants. Elles vivent où ?
Avec la maman. Je suis sans profession à l'heure actuelle.
Nicolas Garrigue, quel est votre emploi ? Quels sont vos revenus ? Votre situation personnelle ? Vous êtes célibataire ?
Ouais, je suis célibataire. Je gagne pas beaucoup, moins de 1000.
Monsieur Baudin ?
Je gagne près de 2000 euros. Je suis marié.
Monsieur Auguin ?
Je vis dans la ville des mutuelles. Je travaille dans une mutuelle. Je suis co-déléguée de Solidaires de Sèvres avec parité femmes-hommes statutairement. Quand il y a une manif à déclarer, on co-déclare. Je vis en concubinage.
Très bien. Nous allons passer au réquisitoire de Madame la procureure. Et ensuite, nous entendrons les plaidoiries.
Bravo. C'est l'heure de la transmission.
Vite, vite, vite.
Du procès auquel on assiste. Sérieux, soyons concis, ce que
Environ 18h30, ce 3 décembre 2025, les quatre prévenus sortent du tribunal de Poitiers.
Et grille, et bâche par bâche, on démontra toutes les bassines.
Bonsoir Julien.
Salut JBD.
Comment ça s'est passé cet après-midi?
Ça s'est passé déjà. Bon, ça a duré une après-midi et on a un délibéré qui va tomber le 2 février. Bon, la première satisfaction, on a quand même pu faire toutes nos déclarations préalables. On a voulu relever le fait qu'on trouvait intolérable que l'avocate générale, la procureure, remettent en cause l'état de nécessité en disant qu'il n'y avait finalement pas tant d'urgence que ça. Quand on sait que c'est la même dame qui est susceptible, dans d'autres décisions, quand elle représente l'État, de protéger l'outarde Canepotière, qui en Poitou-Charentes représente plus de 10% de la population nationale, c'est un petit peu inquiétant. Ouais, ces propos, ils nous ont choqués à tel point qu'on a voulu y réagir. La grosse satisfaction aussi, et ce qui était beau aujourd'hui, c'était le témoignage de Marie Baumard de Nature Environnement 17, qui est une juriste qui travaille quotidiennement sur toutes ces affaires-là, et notamment sur tous les dossiers qui sont défendus au tribunal administratif et qui viennent petit à petit détricoter le système bassine, et qui a pu parfaitement exposer pourquoi cette bassine était illégale. J'espère que c'est l'argument principal qui sera mis en avant pour qu'on puisse obtenir la relaxe pure et simple.
Puisque la bassine de Sainte-Soline et les autres ont été déclarées illégales, du coup, est-ce que ça ne désamorce pas l'illégalité de ces manifestations contre un truc qui a été déclaré illégal?
Je pense que c'est la grosse question qui va être posée. Et on l'a tous évoqué dans nos déclarations préalables. L'état de nécessité, c'est ça, en fait. Et quand il y a un péril imminent et qu'il y a des citoyens qui décident de rentrer en désobéissance civile, ben, ils ne doivent pas être condamnés pour ça. Une bassine dont on dénonce l'illégalité depuis des années et au bout de la chaîne, ben, on a raison. Évidemment qu'on espère que ça soit un élément déterminant dans la décision des juges. Après, je ne suis pas dans leur caboche. Elles en restent néanmoins humaines et sensibles. De la même manière, la juge principale nous a à plusieurs reprises, quand on parlait des images de Sainte-Soline, des caméras piétons, que ce n'était pas le sujet du jour. Bah, c'est carrément le sujet du jour. D'autant que ce qu'on a vécu le 29 octobre, c'était les premières grosses violences policières. Moi, je rappelle qu'à cette époque-là, j'ai été blessé. Hein. J'ai pris un coup de matraque, j'ai eu un point de suture. On était 40 camarades, dont deux avec des traumatismes crâniens. Il y a eu deux jours, on était un petit peu inquiets quand même pour les camarades. Darmanin a profité de cet événement-là pour ensuite écrire sa prose et sa fable autour de l'éco-terroriste. Et il a fait le lit de l'opération quasi meurtrière de maintien de l'ordre de Sainte-Soline du 25 mars à travers cette mobilisation-là. Ouais.
Tu as parfaitement compris ma question. La justice en décembre dit la bassine de Sainte-Soline est illégale, mais le fait de protester contre cette bassine est quand même illégal.
La pression, elle est aussi sur les juges. Leur décision, elle est importante. Elle peut faire jurisprudence dans un sens comme dans l'autre. Elle va être très finement analysée. Chaque ligne va être dépiautée, décortiquée. Ça ne doit surtout pas être une décision à la légère. Elles ont, ces trois juges, une grande responsabilité. Et on espère que les juges seront justes.
Il y a encore ce truc apparemment auquel en face ils sont confrontés, qu'ils n'arrivent pas à piger, c'est que tu n'es pas le chef, tu n'es pas le gourou comme tes autres camarades inculpés. Ils ont l'impression que, par exemple, dans Bassine en Merci, ça se joue comme dans l'armée, c'est-à-dire qu'il y a un général et puis des troufions qui exécutent. Or, tu as beau le rappeler, tu n'es entre guillemets que le porte-parole de Bassine en Merci. Et on le rappelle, chez BNM, il n'y a pas de chef. C'est assez stupéfiant qu'ils aient du mal à comprendre que votre logique n'est pas la leur.
On a insisté largement là-dessus. Mon avocat Pierre Hurier a été très très clair. On a remis une couche, on les a aussi développés dans nos déclarations préalables. Bah oui, ils recalquent des fonctionnements qui ne sont pas les nôtres. Donc on se retrouve 9 mâles blancs de 40 à 50 ans avec des diplômes, là où évidemment que notre mouvement il est beaucoup plus pluriel que ça. En fait, dans la phase d'interrogatoire de la juge, où elle venait interroger sur les faits, etc., à chaque fois, je lui renvoyais simplement le fait de dire « ben oui, ce sont mes fonctions de porte-parole ». Parce qu'en réalité, les éléments qu'il y a sur mon compte dans le dossier, elles sont toutes du ressort de la prise de parole. Hein. Ils ne pourront pas, ils ne démontreront pas, et pour cause, puisque je ne commets pas ces faits-là, de violence vis-à-vis d'autres personnes, même pas de dégradation, et même des éléments concrets qui pourraient témoigner de notre contribution à l'organisation très matérielle, même ces éléments-là, ils ne produisent rien. Ça veut dire que si on pénalise qu'il y a de la répression, surtout les porte-parole de mouvement, c'est une atteinte à la liberté d'expression individuelle et collective sans nom, et qui témoignerait d'une dérive gravissime de notre état, de constitution.
J'ai envie de te remercier de t'en prendre plein la gueule pour tout le monde.
En fait, on a un deal avec le préfet. On ne savait pas comment remobiliser les camarades. Bah, moi, la perspective de savoir que là, cette année, je vais revenir 5 fois ici et qu'à chaque fois, il y aura des copines et des copains En vrai, moi, la journée aujourd'hui, j'étais un peu mal à la tête parce que voilà, ça bourdoune et compagnie. Mais toute la matinée, ça a plutôt été des grandes embrassades, de la joie. Et puis, c'est pas fini. Hein. Là, on va aller écouter Paloma, manger un bout de soupe et tout. Et c'est en ça que notre lutte, elle est belle.
Prochain épisode.
Eh bien, on n'a pas encore les dates pour les prochains procès. Je sais que j'en ai un au mois de juin à Paris. Parce que là, c'est la préfète Dubé qui a porté plainte contre moi pour diffamation. Parce qu'elle a extrait des tables rondes qu'on avait tenues sur l'antirépression au 1 an de Sainte-Soline. Un passage où je déclare qu'on a affaire à un gouvernement assassin. On était à un an après Sainte-Soline. Et avec une préfète, je ne vais même pas citer son nom, une préfète assassine. Et sur ces faits-là, je passerai en audience en première instance.
J'ai vu les images de Mediapart et de Libération. Bah, il y a bien des gendarmes qui disent ouvertement qu'il faut les tuer.
Ouais, moi, je serai à la place de la préfète. En fait, j'abandonnerai la plainte parce que je pense que ça va se retourner contre elle et ça va être très humiliant et à juste titre. Moi, j'ai hâte de voir ce procès-là. J'espère que ce jour-là, ce sera la bascule. J'espère tellement que 2027 et 2026 seront sous le signe des procès des bourreaux de Sainte-Soline, dont les noms ont été mentionnés pour tous les plus hauts gradés dans le dernier article de Mediapart et de Libé. Ça fait plaisir de voir le nom de ces responsables. J'imagine ce que ça peut générer dans leur famille et dans leur entourage. Mais papa, t'étais là-bas, t'as fait quoi? Il y a aussi aujourd'hui un article qui sort dans Le Monde et qui vient s'étonner et relever les atermoiements de l'IGGN et du procureur, qui ont eu très vite connaissance de ces vidéos et qui n'ont jamais fait le moindre signalement, qui n'ont jamais confronté les responsables à ces images-là. Ça le sera vraisemblablement lors de l'enquête administrative, mais qui est toujours pilotée par l'IGGN. Et je rappelle qu'il y a tout un tas d'autres procédures qui sont aujourd'hui envisagées, notamment les Verts qui sont porteurs de certains recours, le fait que le LFI demande à ce qu'une commission d'enquête parlementaire soit déclenchée, la résistance juridique, elle est à la fois en défense et à la fois en attaque.
Tu as bien mérité ton bol de soupe.
Ouais.
Autre inculpé, Hervé Auguin, porte-parole de Sud Solidaire. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Comment s'est passée ta journée?
Riche. Il y a beaucoup d'émotions à retrouver tous les camarades avec qui on lutte depuis des années et on a fait beaucoup de choses ensemble. Il y a une aventure humaine derrière tout ça. Et puis, riche parce que la journée était grave aussi, parce qu'il y avait quatre personnes qui faisaient appel devant la justice française pour demander leur relax et c'est pas anodin.
Les gens dans ce tribunal-là, apparemment, semblent avoir du mal à comprendre la différence qu'il y a entre chef et porte-parole. Tu n'es pas le chef d'un quelconque mouvement éco-terroriste, non. Tu es membre d'une organisation syndicale qui s'appelle Sud Solidaire.
Voilà, nos statuts prévoient deux co-délégués, avec la parité femmes-hommes, donc nous sommes deux, nous, et c'est le cas des autres organisations et des collectifs. Les décisions sont prises collectivement, donc c'est horizontal. Elles sont portées par deux co-délégués. Ce n'est pas deux co-délégués qui décident. Versus en face, l'armée, la police, la gendarmerie, le ministère, où il y a le grand chef qui dit « c'est comme ça » et qui fait descendre jusqu'en bas. Eh bien, nous, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a un problème de compréhension, effectivement, d'un certain nombre d'interlocuteurs, les juges notamment, et nos avocats l'ont bien exprimé, c'est-à-dire que ben, nous, on ne fonctionne pas comme eux.
Choc des cultures.
Oui, oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que nous, c'est horizontal, c'est vertical, hein, si on veut être très schématique et un peu drôle, parce que la lutte, elle doit être aussi légère et se faire dans la joie. Et les camarades des collectifs, des syndicats, des assos font très bien ça avec BNM, malgré les moments durs qu'on a pu avoir. Mais je ne dis pas qu'on fait tout parfaitement, mais nos statuts, nos prises de décision, c'est horizontal. Parfois, il y en a à qui on demande de parler pour tout le monde, mais ce n'est pas eux qui décident.
Alors, de manière très joyeuse et légère, hein, je te remercie, comme j'ai remercié Julien tout à l'heure, de t'en prendre plein la gueule à la place de tout le monde. Merci beaucoup. Hein.
Ouais, ben, il n'y a pas de quoi. On n'est pas là pour notre gueule. On est là pour l'intérêt général, pour la justice sociale, pour la justice environnementale. Je ne suis pas là pour ma gueule, pour accaparer de l'eau, pour produire du maïs en plein été, pour l'exporter dans le cadre de l'agro-industrie. Non, on est là parce qu'on habite un territoire, l'eau c'est un commun, et que dans le cadre d'un réchauffement climatique, ben, faut gérer ça autrement, il faut tendre vers un autre système. Ça engage tout le monde. C'est collectivement qu'on doit prendre les décisions, et c'est pour ça qu'on lutte, parce qu'actuellement, les décisions elles sont pas collectives, elles sont pas dans le sens de l'intérêt général.
Là, il était question de Sainte-Soline 1 aujourd'hui. Parce que là, c'est tombé sur la tranche des 4, là. Mais en fait, derrière vous 4, il y en a des milliers.
Mais en face, ils ne comprennent pas ça. Alors, on leur a dit aujourd'hui, on leur a bien dit. On était tous d'accord et on a tous validé ça pour manifester, même si c'était interdit, parce que ben, l'intérêt général nous l'imposait. à tel point que la bassine de Sainte-Soline est illégale. Elle ne respecte pas la protection d'espèces protégées comme l'outarde, et puis elle est illégale parce qu'elle prend trop d'eau, elle est surdimensionnée, elle n'a aucun sens.
Dans la mesure où la justice dit que la bassine de Sainte-Soline et les trois autres sont illégales, comment maintenir le statut d'illégalité d'une manifestation contre un truc illégal?
Mais parce que ça n'a rien à voir. En fait, le sujet aujourd'hui, c'était l'organisation d'une manif déclarée illégale, une manif non déclarée. Ça aurait pu être pour la fête à Toto, c'était pareil. Bon, là, il y a un sujet plus grave, évidemment, qui est l'eau et sa gestion. Mais effectivement, le sujet, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifestation. Dans un moment qui a commencé il y a déjà plusieurs années, c'est que on subit la répression. Et donc, on nous empêche de nous exprimer sur différents sujets comme les sujets environnementaux, comme la méga-bassine. Mais ça peut être aussi, nous, à Solidaires, avec d'autres syndicats et des assos, on manifeste pour le peuple palestinien qui est génocidé. Mais c'est aussi pour des sujets plus centraux pour nous, qui sont des syndicats de travailleurs, la réforme des retraites, les salaires, etc., les services publics. On ne veut pas qu'on s'exprime. Le pouvoir public ne veut pas qu'on s'exprime. C'est ça le message qu'il faut très globalement comprendre. Ils ne veulent pas qu'il y ait un contre-pouvoir citoyen, des syndicats, des associations, des collectifs qui disent « c'est pas bon, on n'est pas d'accord, on est majoritaire, on n'est pas d'accord ». Ça, ils ne l'acceptent pas. Donc ils font la répression. Ils nous convoquent devant la justice, les violences policières qui est un très bon moyen de répression. Malheureusement, les camarades qui ont souffert dans leur chair et qui souffrent encore, ils nous font peur, ils essaient de couper des têtes, voilà. Nous ne céderons pas.
On voit bien la stratégie, en fait, c'est on va en prendre un ou une pour faire peur, en fait, en disant, voilà, si vous allez dans les manifestations, si vous vous occupez de ces choses-là, pampan cucu.
C'est le pouvoir bourgeois, j'ai envie de dire, c'est très infantilisant, c'est nous qu'on décide, c'est nous qu'on paye, nous, la population, le peuple. Mais il y a quelques dirigeants qui ont le pouvoir, qui s'enrichissent. Alors là, c'est un sujet plus syndical, mais on a défilé hier 15% de Français sous le seuil de pauvreté, des smicards qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur... et puis une ultra-minorité qui décide et qui concentre les richesses. Et puis le pouvoir politique, évidemment, c'est la même chose. Stop. Nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas malgré la répression. Ils peuvent couper des têtes, il y a 4 têtes qui peuvent tomber. Nous ne céderons pas. Nous demandons justice. Aujourd'hui, on demande la relaxe. C'est ultra légitime par rapport aux enjeux environnementaux. Sur d'autres sujets, c'est pareil. Nous ne lâcherons pas. C'est tout. C'est la position de Solidaires, c'est la position de beaucoup d'organisations. Il y a une convergence des luttes. Et c'est comme ça. Ils le prennent pas. Nous, on ne cédera pas d'un pouce. On ne peut pas être plus clair. No Bassaran.
Il y a le double, le miroir de votre procès qui est interprété par des comédiens et des comédiennes là sur scène. Tu es appelé à assister à ton procès, donc à voir ton double sur scène.
Cette manifestation, il a fait un appel à manifester. Il arrive avec des gilets de sauvetage et il va bien, il va canaliser les personnes présentes. Il y a nécessairement un organisateur et c'est bien sûr Monsieur Le Guet qui a organisé cette manifestation qui n'était pas déclarée. Alors nous arrivons sur le 29 octobre. Le 29 octobre. Alors oui, c'est déclaré. Oui, c'est déclaré cette manifestation, mais les infractions commises précédemment. Alors, cette manifestation, vous ne comprenez rien, moi non plus, je ne comprends rien à ce qu'ils écrivent, parce qu'ils disent n'importe quoi. Mais clairement, ils le disent, ce qu'ils contestent, c'est le fait de pouvoir interdire la manifestation. Et ils disent même que comme c'était interdit, ils n'ont pas pu s'organiser, mais c'est bien le but d'une interdiction. Alors là, ils viennent, mais il y a tout ce qui marque leur organisation. Alors à titre personnel, alors on voit bien qu'il y a des prises de parole, et puis bon, c'est plus que seulement des prises de parole, hein. Et puis il y a monsieur Garrigue qui est contact d'organisation, alors que bon, oui, enfin lui, c'est bien lui, hein. Et puis monsieur Julien Leguet, c'est lui qui explique en interview qu'on va prendre d'assaut les bassines, c'est lui qui est en contact avec les gendarmes, qui a accès à la tente d'organisation. Les faits sont donc parfaitement caractérisés. Oh oui, donc l'état de nécessité, alors ça, l'état de nécessité, c'est la personne dessous qui parle, c'est au fait que si on n'agit pas maintenant sur le climat, on est foutu. Elle parle de ça là. Alors, l'état de nécessité suppose un danger actuel imminent. On ne va pas contester le danger actuel que les humains vivent, mais, est-ce que ce danger répond à l'article 1 ? Non, tout n'est pas trop tard, on peut encore agir. Donc l'état de nécessité n'est pas révélé comme une personne qui meurt de faim et va voler au marché. Ça, c'est la nécessité. Là, nous pouvons agir. Il y a un danger, mais pas imminent. Le deuxième justificatif, c'est la liberté d'expression. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Ah ben non. La liberté, c'est quoi ? Voilà. La liberté, c'est savoir se taire au bon moment. La liberté de chacun doit être reliée à celle des autres avec sa propre responsabilité. La liberté, ce n'est pas décider que parce qu'une cause est juste, on fait ce qu'on veut. On nous explique qu'il y a des recours, que ces recours marchent, c'est frustrant, ça prend du temps, on veut que ça aille plus vite, mais si on juge soi-même que ma cause et mon combat est légitime, c'est trop lent, alors j'ai le droit ? Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça ! Mais non, parce que comme ça, c'est l'anarchie ! Donc, il y a des enjeux, et la justice peut faire mieux, mais c'est comme ça, voilà. Au début, on n'est pas contre la manifestation, hein, mais quand on est en 2021, on commence à voir arriver des violences, on voit des difficultés à avoir des manifs pacifiques. Alors là, l'État, oui, l'État pour assurer la sécurité des autres et la liberté des autres, décide d'interdire. En tant que personne qui organise, c'est se dire, est-ce que je fais seulement pour manifester, pour la sécurité, est-ce que c'est proportionné au risque ? Les institutions marchent et ont posé cette interdiction en connaissance de cause. Non, ce n'est pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression, donc je demande de confirmer le jugement. Compte tenu des situations personnelles, les peines me paraissent adaptées en l'absence de procédure judiciaire pour M. Baudin et Aucun, et l'emprisonnement avec sursis pour M. Leguet et Garrigue en termes d'avertissement. Et je demande la confirmation d'interdiction de séjour en Deux-Sèvres et pour M. Leguet, vu qu'il habite en Deux-Sèvres, juste sur les communes Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon, ainsi que l'interdiction de possession d'armes.
Maître Becker, M. Dupont-Moretti demande une réponse systématique et ferme à l'encontre des auteurs de violences et dégradations. Il y a une pression politique sur ces personnes. Le parquet a cru bien sûr qu'il pouvait convoquer 9 personnes un même jour, alors qu'il y avait un match de rugby, et donc l'audience est reportée au 28. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'arsenal policier, les drones. Et j'espère que cette pression ne pèse pas sur vous aujourd'hui. Le dossier de M. Baudin est très mal construit. Monté dans la précipitation, on espère éteindre un mouvement à travers leurs biais, qui sont des porte-parole pour faire peur. Les débats sont beaucoup plus calmes aujourd'hui. Les parties civiles ne déboulent pas pour se montrer avec les caméras, et je nous en félicite. Les images de violence sont importantes, même si ce n'est pas l'objet aujourd'hui. C'est la pression qui pèse sur les 4 prévenus de cette hyper-violence, comme s'ils étaient les responsables de cette violence. Vous le verrez en sortant, les gens qui animent ces buvettes, ces chansons, n'ont pas ce projet de violence, mais ils se sentent en danger. On entend, la lutte contre l'écoterrorisme est aussi importante que la lutte contre les narcotrafiquants. Je voudrais requalifier le terme d'organisation. Il y a peu de jurisprudence dans ce cas. Ce n'est pas que M. Baudin
Mais Monsieur Auguin ait déposé la demande de manifestation qui fait d'eux les organisateurs, ni le fait qu'ils aient pris la parole. On le redit, il n'y avait rien qui indique que les syndicats aient organisé. Pas de buvette, pas de musique, pas de barnum. Et il n'y a eu aucun acte d'investigation. Qui a loué le barnum? Qui a mis ça là ou là? C'est un peu fort de café. On présume alors qu'il n'y a pas d'investigation. On voit sur la photo 3 ou 4 drapeaux CGT. Mais quand c'est une manif CGT, c'est noir de drapeaux rouges. Si c'était une manif CGT et que 4 personnes étaient venues avec des drapeaux gros camouflés pour la CGT, Monsieur Paulin n'aurait pas été réélu. Les gens n'ignoraient pas que la manif était interdite. Ils y sont allés parce qu'ils trouvaient la cause juste. Mais en quoi le fait de prendre la parole avec sa chasuble alors que la manifestation est déjà en cours fait de lui un organisateur? Est-ce que le parquet poursuit les députés qui ont l'insigne de la République pour supposition que s'ils portent le signe de la République, c'est que c'est une manifestation organisée par les Républiques? Mais aujourd'hui, on sait que tout ça n'a pas été vain. J'ai vu en arrivant un hommage fait à Rémi Fraisse. On est sur la même chose. S'opposer avec le cœur à un projet qui met à mal le territoire. À Sivens, il a fallu encore 2 ans après ce drame pour que ce soit statué. Ici, nous avons le tribunal de Bordeaux qui a agi et statué. À mon sens, vous n'avez aucun élément, ni matériel, ni intentionnel, qui confirme la qualité d'organisateur de M. Baudin. Merci.
Je suis le maître Hurier. Vous avez vu le nombre d'affaires en cours actuellement? On essaie d'organiser les choses car il y a un enjeu démocratique à avoir accès aux juges. Pour ici, des personnes à qui la justice par ailleurs donne raison avec l'illégalité des bassines. Je vous promets d'essayer d'être concis et construit, ça m'arrive. J'ironise, mais je cache ma colère. Après 3 ans de procès, je ne sais toujours pas quels sont les ensembles de faits qui font que matériellement, M. Auguin a participé avec ses bras musclés à organiser ce rassemblement de 4000 personnes. On a 2 PV illisibles qui disent qu'ils ont pris la parole. Bon. Donc revenons à la déclaration préalable. Elle ne donne aucune responsabilité en tant que personne morale. Il participe à l'exercice d'une liberté syndicale. Le 19, il y a la déclaration de manifestation. Le 24, le refus. Puis la demande de référé liberté. Et son résultat, le 28, donc les voies de droit sont en cours. Ici même, il y a encore quelques heures, le rassemblement était interdit et le référé liberté a annulé la décision de la préfecture. Donc on a bien raison de maintenir ces manifestations jusqu'au bout des référés. Et là, le drame, Monsieur Auguin prend la parole à un micro sur un terrain privé et dit « On a raison d'être là ». De fait, il avait raison d'être là. La bassine est illégale et nous sommes bien placés pour savoir que la justice a des problèmes de lenteur. Le ministère public vous a fourni un dossier plein de béances, c'est un gruyère, ce qui les amène à devoir s'expliquer sur les béances de ce dossier. On ne peut pas prouver qu'ils n'ont pas organisé, on ne peut pas prouver une absence. Je ne peux pas vous prouver que je n'ai pas tué Kennedy. Donc tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'au dossier, il n'y a aucun élément qui montre qu'il a été organisateur. Il a été un élément de cœur convaincu, et ensuite, tenez-vous à votre siège, on l'a vu avec un drapeau dans un champ. Et là, on en déduit qu'il est organisateur. 4000 personnes, et c'est lui avec son drapeau qui est l'organisateur. Monsieur Garrigue serait organisateur du 29. Mais alors là, je n'ai rien. Pas de prise de parole, rien. J'ai le PV dont il est fait mention d'une vidéo où il apporte son soutien à Bassine, non merci, et des photos de lui dans le cortège. Mais, nous disent les enquêteurs, comme il prend souvent la parole pour le soulèvement, alors il est organisateur. Alors donc, si on est un peu connu des RG et qu'on prend la parole, qu'on est identifié sur un événement qui nous déplaît, alors on va dire qu'il est organisateur en sous-main. On frôle le délit d'opinion. Mais on parle de peine d'emprisonnement. On n'est pas à une discussion de salon, il y a des peines et on en reparlera.
On n'avait pas beaucoup d'espoir sur les jugements de Niort, il y a des raisons politiques en ce moment. J'ai bon espoir qu'ici, on soit sur des éléments juridiques plus pointus et précis, et on n'a rien au dossier. Alors, Julien Leguet, je ne le garde pas pour la fin parce que je suis embêtée. Mais c'est sûr que c'est plus délicat, car il est porte-parole et plus affiché médiatiquement. On se heurte à ces images, à ce choc des cultures, où on a une image des organisations avec une hiérarchie, des bureaux. On a des PV faits par des gendarmes qui adorent le système de hiérarchie. Mais les mouvements ne s'organisent plus comme ça. Eux, ils arrivent en disant « décision collective, pas de hiérarchie ». Alors le policier prend peur. Alors ça va être l'anarchie. Julien Leguet n'a pas la main, mais il parle bien, il y croit. Alors on lui dit « vas-y toi, parle ». Mais il y a ce choc entre ces deux logiques de hiérarchie et non-hiérarchie. Oui, il dit de façon répétitive « je suis porte-parole ». Oui, c'est la seule réponse à beaucoup de questions un peu répétitives. Le 2 octobre, il n'y a pas un organisateur, mais 50. Il y a plusieurs milliers de relais de la publication Facebook. Et parce que Julien Leguet a des gilets de sauvetage et un porte-voix, il est organisateur. Donc, on a des RG, des possibilités d'infos, des choses mises sur les réseaux. Tout le monde est au courant, mais on n'a rien. Aucune preuve. Il n'est pas le chef des Black Blocs. C'est une vision policière, militaire. S'il y a bien des individus qui ne suivent pas un leader charismatique, c'est bien les Black Blocs. Le dossier que le ministère public avait toute occasion d'enrichir avec ses propres moyens illimités est si pauvre que si cela va devant une cour européenne, il y aura une appréciation des moyens du ministère public en relation avec l'épaisseur du dossier. Par contre, on ne voit pas de condamnation pour les exploitants qui ont puisé illégalement. Et eux, les prévenus, ils ont déjà purgé leur peine. Ils ne peuvent plus aller sur des territoires où ils ont des liens. Vous pencherez sur un impensé de ce dossier, cette peine d'interdiction du territoire. On voyait cela très peu sur un périmètre de rue, de quartier. C'est la première fois que je vois ça. Un bannissement d'un 70e du territoire français dont il est citoyen sans liberté de circuler. Quelle est la logique de ça? Le voir en 79 susciterait l'émeute? Les foules se rallieraient à son étendard? C'est lourd de sens. Je défends souvent des actes égoïstes. C'est rafraîchissant ici. On est sur le bien commun. On est sur des peines extrêmement lourdes alors que ces personnes ne vivent pas cela parce qu'ils y trouvent un intérêt particulier. Ils le font pour vous, pour nous. Merci.
La dernière parole est au prévenu.
J'ai été choquée par l'avocat général concernant l'accès à la ressource en eau. Qu'il n'y aurait pas état de nécessité. Il y a un réel danger et je ne comprends pas qu'on puisse le dire avec autant de légèreté.
La nécessité est vraiment réelle. L'irrigation tue les outardes canepetières. Merci. La décision sera rendue le 2 février.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de la retransmission du procès de quatre porte-paroles anti-mégabassines du 3 décembre 2025 à Poitiers, à télécharger sur notre site polemixetlavoixoff.com et à très bientôt sur votre radio libre préférée, à vous les studios.
Qui écoute.